Les communes de Saint-Tulle-et-Corbières se souviennent de leurs enfants morts durant la Grande Guerre.
Oui, il y a plusieurs jours de manifestations et plusieurs actions qui sont prévues à Saint-Tulle et à Corbières. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir le président de l'association TTA, Maurice Blanchard. Bonjour Maurice.
Bonjour.
On rappelle que TTA, c'est tout simplement l'ancien nom de Saint-Tulle et vous êtes très attaché à ce passé avec votre association.
Absolument. D'ailleurs, nous avons donné le nom de TTA à l'association. Pour qu'on puisse, à travers ce nom ancien, ce nom romain, qu'on puisse se rappeler de la mémoire, qu'on puisse parler du patrimoine matériel et immatériel.
Alors on va faire un bond, on va passer des Romains jusqu'à tout simplement 1914, ce moment particulier avec cette guerre affreuse qu'on appelle souvent la Grande Guerre, comme si une guerre pouvait être grande, disons la guerre de 14-18. Vous vous êtes penché, Maurice Blanchard, avec votre association TTA, sur le passé de certains Corbiérains et Tullésains, et vous les avez mis à l'honneur.
Oui, effectivement, on a commencé à travailler déjà depuis 2013 sur un seul soldat. Petit à petit, nous sommes montés en puissance et puis on a vu que sur Saint-Tulle-et-Corbières, 244 hommes étaient partis à la guerre de 14-18 et il y en a environ 56-58 qui sont morts au combat et à peu près le même nombre qui sont revenus blessés.
On va redonner ce chiffre parce qu'il est marquant. 244, c'est ça? 256 personnes qui sont parties au combat et combien de morts? 50?
Il y en a 46 exactement à Saint-Tulle et 20 à Corbières.
66 pour les deux communes, c'est considérable.
C'est absolument considérable, mais il faut aussi comptabiliser les blessés puisqu'ils étaient autour d'une soixantaine également.
Blessés et mutilés aussi, souvent. Hein.
Blessés et mutilés.
Vous êtes penché sur quelques cas particuliers de vos anciens, des aïeux héroïques de ces communes.
Oui, alors nous avons choisi ces 6 hommes en fait, 4 de Saint-Tulle et 2 de Corbières. 2 ont été tués à l'ennemi, le troisième a été blessé en ce qui concerne Saint-Tulle, et nous avons réalisé leur parcours. Leur parcours a été fait par rapport à des archives nationales et départementales où on a pu déchiffrer des journaux de marche et des opérations qui sont mis en ligne sur Internet. Mais aussi, on a travaillé par rapport à des documents qui nous ont été prêtés par les familles. Documents et aussi enregistrements, puisqu'on a eu même un enregistrement d'un poilu qui nous servira de support pour une des conférences.
Nous allons parler de vos conférences, justement, de ces actions que vous avez faites. Les familles ont bien reçu votre initiative. Comment ça s'est passé?
Alors certaines oui, d'autres n'ont pas répondu parce que la transmission de ces poilus aux familles, surtout les rescapés, n'ont pas tellement transmis la mémoire. Et pendant ce conflit-là, ils ont tellement vécu l'horreur qu'une carapace s'était formée autour d'eux et que rien ne l'a traversé, les sentiments pas plus qu'autre chose.
C'est vrai qu'en cette période, on parle beaucoup du centenaire de la guerre de 14-18. Vous vous êtes plongé, vous, dans une réalité strictement locale.
Voilà. L'accent que nous avons voulu mettre, c'était le local. C'était faire revivre les personnes qui ne sont pas revenues, les personnes qui sont revenues. Et les documents qu'on nous a mis à disposition nous ont aidés à construire tout ce qui a été construit, aussi bien exposition que les conférences qu'on va présenter au public.
Alors avant de détailler justement ces conférences et ces présentations publiques, il y a quelque chose qui m'a sauté à l'œil évidemment sur votre programme, c'est tout le travail que vous faites en direction des écoles et donc des jeunes générations. Il y a aussi un devoir de mémoire que vous effectuez.
Oui, à travers cette manifestation, on a réservé 3 jours au niveau des écoles. Alors les écoles communales et puis peut-être le collège aussi qu'on a sollicité aussi pour venir visiter. Et oui, c'est effectivement un travail de mémoire qu'on essaie de transmettre avec les outils d'aujourd'hui, les outils informatiques, les outils d'impression que nous avons à disposition. C'est quelque chose qui va rester dans le temps et qui pourra être reconduit, ces manifestations pourraient être reconduites puisque le centenaire ne dure pas seulement l'année 2014 mais va durer jusqu'à 2019. Au moment, et même plus tard, de 2020, puisqu'en 1920, nos armées sont parties combattre encore en Orient.
Nous aurons l'occasion, lors de ce centenaire, de revenir évidemment sur toute cette période. Revenons à ce devoir de mémoire. Vous allez avoir certainement parmi les visiteurs des arrière-petits-enfants de poilus qui sont morts à la guerre. Comment vous allez leur présenter les choses ?
Alors, on n'a pas que des petits-enfants. Il y a aussi des enfants encore qui sont en vie. Corbière, justement, sur
une. Je pensais aux scolaires, moi, de mon côté.
Ah, hein, des scolaires. Alors là, bon, et on va présenter ça d'une autre manière que ce qu'on va faire au public. On va avoir un mode de présentation qui va s'adapter et qui est en corrélation avec les instituteurs et les directeurs d'école. Donc, ils vont venir visiter. On va sûrement leur poser quelques questions. On va leur faire découvrir ce que nous présentons. Mais bon, eux n'assisteront qu'à l'exposition. Mais nous avons quand même ajouté quelque chose de très important qu'il faut souligner. C'est la participation de plusieurs associations, mais aussi d'un musée. Le musée 3e, le musée moto mode militaire, qui se trouve sur l'ancienne nationale 96, en bordure de route, et qui présente tout un panel de modes de militaires, et puis qui s'est aujourd'hui focalisé un petit peu sur notre exposition et qui présentera du matériel et des habillements de la guerre de 14.
Et notamment ce camion de 1915 avec des roues en bois assez impressionnant et dont la vitesse de pointe dans la descente était uniquement de 16 km/h, me semble-t-il.
Oui,
qu'on a admiré dernièrement à Manosque.
C'était exact, il était à Manosque. Malheureusement, nous n'avons pas pu l'avoir, ce camion, mais Monsieur Tiano a pu récupérer un crapouillot. Un crapouillot, c'est un petit canon de tranchée avec son obus qu'on présentera au public. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui connaît ce genre d'armes.
C'était des canons qui permettaient de plonger à travers les tranchées adverses. Et puis c'est un nom qu'on connaît bien dans la presse, puisque c'était le nom d'un organe de presse aussi, le crapouillot.
Crapouillot.
Qui a vécu bien longtemps après la Première Guerre mondiale. Parlons justement de vos partenaires, Maurice. Vous avez plusieurs associations qui se joignent à vous pour cette action.
Alors, effectivement, nous avons, au début, on était parti tout seul dans cette aventure. Et puis, petit à petit, plusieurs associations nous ont rejoints, notamment l'Écharpe d'Iris, qui est une association de photographique, qui va présenter des portraits de soldats qui ont été restaurés par rapport aux photos qui nous ont été mises à disposition par les
familles,
les descendants, et puis des photos de monuments. La deuxième association qui est partie prenante de notre manifestation, c'est la philatélie. La philatélie qui présentera aussi une belle exposition, puisqu'elle est beaucoup plus axée sur les timbres et les messages de cette époque-là, ainsi que des cartes postales. Nous avons alors les anciens combattants qui sont aussi intéressés par cette manifestation, et puis je crois qu'il y a l'harmonie municipale, qui interviendra également le jour du 11 novembre avec un petit concert après la cérémonie du monument aux morts.
Avec des musiques d'époque, je suppose.
Oui, je pense qu'il y a un petit panel. Je ne sais pas exactement ce qu'il va nous jouer, mais l'harmonie municipale a un éventail de musique assez large. Donc, je leur laisse le choix de leur intervention.
Alors, parmi votre activité, il y a plusieurs conférences, des conférences projections. On va entrer en détail dans ce programme, Maurice Blanchard. Mais avant, peut-être parler justement des soldats eux-mêmes que vous avez retrouvés lors de vos recherches.
Oui, les soldats que nous avons. Alors, le travail qui a été fait par rapport à des archives qui étaient aussi bien nationales, puisque on a retrouvé des fiches de décès, des fiches de militaires de décès. Il y a aussi les journées de marche des opérations qui jour par jour notaient ce que faisaient les régiments ou les bataillons. Puis les archives communales qui nous ont donné certains renseignements, comme par exemple le rapatriement des corps, qui n'a pas été une chose vraiment terrible, puisque des corps sont restés sur place, qu'on n'a pas retrouvé. D'autres corps ont été rapatriés, Certains ne l'ont pas été parce que les gens ne le pouvaient pas. Il fallait payer le rapatriement du corps. Donc, il manquait d'argent. On n'avait pas de tombe au cimetière. Donc, voilà, on a abordé tout ce travail dans les archives et nous allons représenter ça à tout le public.
Et vous vous êtes penché sur la vie et la mort, parfois, des frères Laugier, par exemple, ou du chasseur alpin Victor Arnel, ou bien de Lette, dont vous parliez tout à l'heure, ce fameux soldat qui a transmis des interventions et que l'on entendra, grâce à la magie des bandes sonores, lors de d'une projection que vous allez proposer à Sainte-Tulle.
Alors, ces quatre soldats étaient dans des régiments tout à fait différents. Certains étaient dans les chasseurs alpins, d'autres étaient dans la territoriale. Territoriale, c'est une armée qui est en arrière, un petit peu en arrière, parce que les gens étaient un peu plus âgés. Donc, on n'était pas directement en première ligne, quoique, dans le temps, après, ils venaient compléter les régiments qui intervenaient directement. Et puis, il y a Étienne Lette, par exemple, le 173e régiment d'infanterie, qui était basé en Corse, qui faisait partie du 15e corps. Et lui, avec Victor Arnel, effectué leur service militaire. Et ils ont, bien entendu, été envoyés de suite au cœur des combats, dans le 15e corps. Et ils ont fait un total, ils sont passés 7 ou 8 ans au sein de l'armée.
Il va y avoir un hommage très particulier que vous allez rendre avec nos amis anciens combattants, d'ailleurs, à ce fameux 15e corps. On rappelle qu'en 1914, notamment, le maréchal Joffre les a envoyés directement à l'abattoir. Et en plus, après, on les a accusés de lâcheté et d'ignominie. Enfin bref, ces fameux combattants provençaux. Et donc, vous avez Étienne Lette, qui faisait partie de ce 15e corps.
Oui, Étienne Lette en faisait partie. Alors le 15e corps, pour résumer, c'était le corps des Provençaux, qui comprenait les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, les Alpes d'Haute-Provence. Puis on y avait ajouté le Gard et une partie de l'Ardèche. Dans ce 15e corps, les gens qui étaient d'actifs, c'est-à-dire entre 20 et 24 ans, ont été envoyés directement au combat. Et on procédait à la bataille de Lorraine, la plupart d'entre eux. Et ils ont été, ils s'attendaient pas à cet accueil de la part des Allemands qui étaient bien préparés. Et ils ont été bombardés, l'artillerie est tombée sur eux. Ils ont été obligés de faire un retour sur leurs pas. Et suite à cette débandade qui n'était pas évitable, les généraux qui avaient commandé cette attaque sont arrivés les ont traités de traîtres, les ont salis, les ont diffamés, et c'est un hommage qu'on voudrait leur rendre parce que ils ont été vraiment salis.
Et c'est vrai que ça fait partie aussi de notre histoire, cette histoire du 15e corps. L'hommage aura lieu ce samedi d'ailleurs, c'est à 11h le samedi 8 novembre. Votre exposition sera visible aussi à quel endroit à Sainte-Tulle, Maurice?
Alors l'exposition sera visible à la salle des fêtes Gaston Vachier, l'EGV, ce qu'on appelle l'EGV, l'espace Gaston Vachier. Les conférences auront lieu au théâtre municipal Henri Fouchère, qui fut lui aussi mobilisé pendant la guerre de 14-18. Et le musée Tiano, donc c'est sur place, on ne le déplacera pas, lui, il faudra aller se rendre sur place pour voir l'exposition qui est dans le musée.
À Corbière, il y a également des manifestations.
Alors à Corbière, ce sera le 21, 22, 23. Donc le 21, on reçoit les écoles communales. Le soir du 21, il y a Marc Donato qui fait une petite conférence sur le printemps, le dernier printemps avant la tourmente.
Donc c'est le printemps 1914.
C'est le printemps 1914. Il le fait d'ailleurs également à Sainte-Tulle le 4 novembre. Puis les deux jours qui suivent, le samedi et dimanche, seront réservés à l'exposition et ouverte au public et aux deux conférences qui seront dédiées à Henri Aubert, soldat parti en 1915 et retourné en 1919, et Victor Arnel, qui lui est parti très tôt puisqu'il est parti en 1913 et il est retourné seulement en 1919.
C'était le temps de la conscription à l'époque, c'est comme ça que ça s'appelait.
Oui, c'était exactement le mot. Ils étaient, alors il y avait plusieurs catégories d'âge, hein, je me répète un petit peu, mais la première catégorie c'était déjà les soldats d'actifs qui avaient 24 ans, de 24 à 34 c'était les soldats de réserve, et les 34-48, puisqu'on mobilisait jusqu'à 48 ans, restaient en deuxième ligne ou occupaient des fonctions de logistique ou de brancardier. Et eux sont restés jusqu'en 1918-1919.
À voir et à, surtout à connaître et à se documenter cette manifestation du centenaire de la guerre de 14-18 sur les deux communes de Sainte-Tulle et Corbières. Nous n'avons pas oublié, c'est un beau slogan que vous avez trouvé là. Cette semaine, c'est en fin de semaine, vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9, c'est à Sainte-Tulle. Le lundi 10 également et mardi 11, tiens, il y a 5 jours, j'oubliais le lundi et le mardi. À Corbières, par contre, c'est uniquement le week-end, les 21, 22 et 23 novembre, et c'est tout ça, c'est, on le doit beaucoup à l'association TTA notamment. J'en profite, vous avez parlé de Marc Donato, notre ami, qui donne lui aussi une conférence aussi bien à Sainte-Tulle, mais le lendemain il est aussi à Pierrevert. Les pierres verdantes dans la tourmente, Marc est un historien qui s'est penché sur cette histoire, et il lira à cette occasion des lettres de Charles Bourdin, Paul Turcan et Joseph Rassat. C'est une manifestation qui aura lieu mercredi 5 novembre à Pierrevert et à 18h15 très exactement à la salle polyvalente. Bref, le territoire se souvient des sacrifices de nos anciens. Merci beaucoup Maurice Blanchard d'avoir été mon invité. Bonne manifestation et à très bientôt.
Merci.